RCF.
Bonjour à tous. Nous sommes heureux de vous retrouver à l'écoute de cette nouvelle émission en direct de Parole d'évêque avec notre évêque, Monseigneur Xavier Mal. Monseigneur, bonjour.
Bonjour.
Vous allez mieux ?
Mieux, mieux. Bon, finalement, c'était une bonne grippe que j'avais la semaine dernière. Hein.
C'est pas facile à passer.
Voilà.
Vous avez réussi à vous en débarrasser. Alors, aujourd'hui, nous allons parler essentiellement de vocation. Il y a d'autres rendez-vous, mais le dimanche 21 avril prochain, c'est la 61e journée mondiale des vocations. Alors, nous aurons l'occasion d'écouter le père Jurtig à la fin de cette émission, que j'ai interrogé sur, puisqu'il est un des organisateurs, un des responsables de l'organisation de cette journée avec le père Michael Fontaine. Et donc, on va parler de vocation, Monseigneur. Quelle est l'importance de ce dimanche des vocations?
Alors, c'est un dimanche par an qui permet à tous les chrétiens de prier le Seigneur, de leur accorder les vocations dont ils ont besoin pour leur chemin de sainteté. Un dimanche où on prie spécifiquement pour ce qu'on appelle justement les vocations spécifiques, c'est-à-dire les vocations sacerdotales, diaconales, mais aussi les vocations religieuses. Et on n'oublie pas toutes les religieuses qui sont en mission chez nous. Et on prie aussi pour qu'il y ait des vocations chez elles. Alors on a la joie d'avoir l'abbaye de Rosan. Il y a régulièrement des jeunes filles qui rentrent à l'abbaye de Rosan. Mais à ma connaissance, ce ne sont pas des jeunes filles alpines. Et donc, il faut prier pour qu'il y ait aussi des jeunes filles alpines qui rentrent dans cette communauté. On prie aussi pour, en particulier, la communauté des Sœurs de la Salette. On voit bien qu'il y a aussi quelques Françaises qui rentrent là-dedans pour renouveler la part française de la communauté, voilà, si le Seigneur les appelle. Et puis après, évidemment, le sacerdoce diocésain ou religieux, mais pour nous, plus particulièrement diocésain, on prie pour qu'on ait des nouveaux séminaristes. On a la joie d'avoir deux séminaristes, mais si le Seigneur pouvait nous en envoyer d'autres, on les accueillerait avec bonheur.
Alors vous nous dites la joie, Monseigneur, parce que si des religieuses ne sont pas du diocèse, c'est pas la même. Parce que en général, les personnes qui ont la vocation et qui sortent du diocèse, en général, non ? Est-ce que c'est une idée qui n'est pas juste ?
Alors, ça dépend vraiment de chaque communauté. Hein. Il y a des communautés qui sont purement diocésaines, et voilà. Mais nous, c'était les deux anciennes communautés, Saint-Joseph et la Providence, qui maintenant sont des communautés internationales. Il n'y a plus de vocation chez nous pour leur type de mission en tant que telle. Et puis après, il y a les communautés contemplatives, comme l'abbaye de Rosan, où les sœurs restent chez elles. Elles restent dans leur monastère à vie. Elles font un vœu de stabilité. Et donc, c'est bien aussi qu'il y ait des Hauts-Alpines. Alors, on a aussi, peu de gens le savent, on a aussi une Hauts-Alpine qui est à Lourdes, au Carmel de Lourdes. Et régulièrement, avec le pèlerinage diocésain qui est au mois d'octobre, ça permet de dire qu'il est temps de vous inscrire, chers auditeurs, pour le pèlerinage diocésain de Lourdes, au mois d'octobre prochain, où j'y reste cette année. Et bien souvent, on va aller vivre un office au Carmel et on rencontre une religieuse, j'ai perdu son nom, mais qui vient du Champsaur. Qui était une jeune fille du Champsaur, qui maintenant commence à avoir un âge un peu plus âgé, un peu plus canonique, mais qui est issue du Champsaur et qui prie beaucoup pour le diocèse, vous voyez, depuis Lourdes.
Il y a toujours un attachement au diocèse d'origine ?
Ah oui, j'imagine, oui.
Vous-même aussi ?
Surtout que les Hauts-Alpins sont quand même toujours très heureux de revenir dans leur territoire d'origine. Ils sont très attachés à leur lieu d'origine. Et c'est tout ça très, très beau. Je trouve ça très beau.
Vous-même aussi être attaché.
Moi-même, je suis très fier d'être valenciennois. On parlera d'ailleurs tout à l'heure avec une prière pour les vocations écrite par un jeune valenciennois.
D'accord. Alors, le pape a publié un message pour ce dimanche, pour la journée mondiale des vocations.
Alors, il a publié un message et il a... désolé, je ne l'ai pas lu encore. Je ne l'ai pas lu encore.
Vous êtes très occupé.
Voilà, mais généralement, il y a souvent un message du Vatican qui accentue sur tel ou tel point. On peut imaginer, comme c'est l'année de la prière, que ce soit sur le thème de la prière pour les vocations. Pourquoi demander à Dieu de nous envoyer des vocations ? Voilà, ça peut être là-dessus, mais je ne peux pas vous en dire plus. Là.
Alors, il s'appelle « Appeler à semer l'espérance et à construire la paix ».
D'accord.
Voilà. Et ce texte est disponible en intégralité sur le site du diocèse aussi.
Eh bien, j'irai le trouver.
Voilà. Un conseil. Voilà. Alors, ce temps de pour les vocations, il y aura aussi une neuvaine organisée pour et une prière pour les vocations. Alors peut-être on va parler de la prière pour les vocations. Non.
Ah, on peut en parler, mais je suis pas la chose de près là.
Alors, donc, la neuvaine est lancée sur le site Hosanna.
D'accord.
Et elle s'intitule Vocation portons leur oui dans la prière.
D'accord, très beau.
Voilà, très beau. Avec 12 figures. Elle débute le 13 avril et se terminera le jour de la Journée mondiale des vocations. Donc le 13 avril, eh bien c'était hier, puisque nous sommes le vendredi 14 avril. Voilà.
Aujourd'hui, non, on est le 12 avril aujourd'hui.
Ah ben voilà, comme
donc
ça c'est voilà. On n'est pas très bon aujourd'hui, mais c'est pas grave. Donc eh ben comme ça, on peut prendre la neuvaine dès demain.
Prier pour les vocations dès demain. Voilà. Ce qui me semble important toujours, c'est de prier pas forcément pour les vocations en général, mais de prier pour les vocations aussi dans nos familles et chez nos petits enfants. Et parce que ça m'amuse toujours les paroissiens qui se plaignent qu'ils n'ont plus de prêtres, mais je me leur demande souvent, mais il y a combien de vocations dans votre famille? Voilà. Et donc, prier pour les vocations dans notre famille. Et souvent, vous savez, c'est un peu comme les terrains d'accueil des gens du voyage. On en veut bien, mais sur le terrain d'à côté, pas sur le mien de terrain, quoi. Donc, on veut bien une vocation, mais peut-être dans la famille d'à côté. Alors que, en réalité, c'est une des plus belles choses que peut faire le Seigneur de donner une vocation dans une famille, même si c'est d'abord pris comme un peu un gros sacrifice, puis ça peut être pris comme une vraie douleur hein, pour des parents, parce que il faut faire le deuil, par exemple, des petits enfants, avec l'engagement au célibat de la religieuse ou du prêtre. Hein. Mais je crois qu'il y a aussi une vocation de parents, de religieuses ou de prêtres, mais qu'on la découvre après. Et souvent après, la relation entre le parent et son fils ou sa fille consacrée est souvent beaucoup plus forte qu'avec les autres enfants. Il y a un lien particulier. En tout cas, c'est ce que je peux témoigner avec ma famille, où ça a été très difficile pour mon papa, notamment au début. Et puis, voilà, les choses se sont apaisées petit à petit. Et avec ma maman, il y avait des liens très forts aussi par le fait que j'étais consacré. Il y a un moment, elle m'a écrit une belle lettre en me disant, quelques années après mon ordination, en me disant, j'ai enfin dit mon oui, mon fiat, comme la Sainte Vierge, enfin dit mon oui, sois heureux. Voilà. Et ça a permis une belle relation avec feu ma maman. Voilà.
C'est bien de nous le raconter, merci Monseigneur. Alors ce oui, on peut, cette affiche autour de ce dimanche des vocations, elle est interactive en fait. Il y a 12 témoignages avec le QR code qu'on peut donc flasher. Hein, et donc on peut écouter ces 12 témoignages.
Super. De vocation.
De vocation, voilà. Alors justement, dans le cadre des vocations, Monseigneur, vous déjeunez avec les prêtres Fidei Donum le 17 avril prochain. Alors pourquoi cette rencontre?
Alors parce que il me semble que c'est important de leur prêter une attention particulière. Il faut se rendre compte un peu du déracinement qu'ils vivent en arrivant. Dans notre pays, ils arrivent concrètement de ce qu'on appelle avec notre langage à nous la brousse. Ils arrivent dans notre brousse à nous, ils découvrent tout. Un climat différent, une culture différente, une histoire différente, des manières d'être différentes. Et donc je crois que c'est important de leur donner cette possibilité d'échanger avec leur évêque en groupe, là, de partager leurs joies et leurs difficultés. Donc ça fait depuis 2 ans, je fais ça maintenant, un déjeuner une fois par an avec eux, pour leur montrer à la fois cette écoute et puis aussi notre joie de les accueillir. Parce que les accueillir, c'est non seulement pour répondre à un déficit de vocation, dont on parlait avant, déficit de vocation de prêtre, mais c'est aussi un vrai échange, un vrai don. Fidei Donum, on les appelle les prêtres Fidei Donum, du nom d'un texte très ancien de l'Église, le don de la foi. Et effectivement, ils nous font le don de la foi, comme la vieille église d'Europe, la vieille église de Gap, par exemple, a fait le don de la foi à un certain nombre de diocèses dans le monde en envoyant des missionnaires. On a eu, lors de la messe chrismale avant Pâques avec les prêtres, 2 magnifiques témoignages sur 2 missionnaires partis de notre pays, l'un en Corée dans les années 60 et l'autre beaucoup plus ancien, qui vient du Champsaur, et qui a été le premier évangélisateur de l'île de Pâques. à l'autre bout du monde, de l'autre côté du Chili, quoi, à l'autre bout de l'Atlantique, vraiment très très loin, avec une figure incroyable d'évangélisateur, ce petit gars du Champsaur qui a été évangélisé le bout du monde, quoi. Et d'ailleurs, le 14 juillet prochain, la municipalité de Saint-Bonnet va appeler une des places de la ville de ce nom, il s'appelle Eugène Hérault, et je pourrais y aller aussi pour célébrer la messe, c'est une grande joie pour moi. Voilà, donc...
Combien de prêtres fidei donum sur le diocèse, Monseigneur ?
Alors, j'ai pas vérifié mon calcul. Peut-être que vous l'avez fait, vous-même, le calcul. Vous savez, on a fait cette année une très belle affiche avec toutes les photos des prêtres, hein, y compris les prêtres, oui, fidei donum. Mais je dirais une douzaine, actuellement une douzaine de prêtres, ce qui sur 30 en pleine activité fait un bon pourcentage, hein. Donc, on en a au lot. On en a en paroisse, alors à Chorges, à Vennes, à Saint-Bonnet, à Briançon. Voilà, et donc sans eux, aujourd'hui, on ne pourrait plus être présent dans toutes les vallées. C'est ça qu'il faut se rendre compte. Et donc les paroissiens le savent et généralement en sont reconnaissants. Ouais.
Et ça enrichit aussi une autre culture
exactement,
de la foi.
Et exactement, et c'est aussi l'objectif. Vous savez, on est en voie de jumelage toujours, on en parle depuis quelques années. Là, ça y est, on a fait notre délégation qui est au mois d'octobre prochain. On sera 12, comme les 12 apôtres, on sera 12 à partir au mois d'octobre à Dassa pour ce jumelage. Et le jumelage, il est non seulement parce qu'on accueille un prêtre de Dassa Zoumé, le père Yves-Marie à Briançon, et qu'on espère en accueillir d'autres après, mais aussi pour justement un échange de culture, un don de la foi mutuelle, réciproque. Je dis, pour prendre un exemple concret, aller dans ces pays-là, rencontrer leur manière d'être en Église, ça nous sort de nos petits conflits franco-français. Vous savez, est-ce qu'il faut de l'encens ou pas à la messe ? Voilà, l'exemple de la caricature du conflit franco-français.
C'est un conflit, oui.
Cette question, elle se pose pas dans ces pays-là. Il y a tellement d'autres questions beaucoup plus importantes. Et là, ça nous permet de relativiser nos petites questions qui sont pas importantes, qui sont pas le principal de notre foi, et nous recentrer. Voilà, donc on est très heureux d'accueillir ces prêtres, de ce futur jumelage. Ça nous permet de sortir de la tête de nos petites questions et de prendre un peu de la hauteur.
Prendre de la hauteur, c'est important. Prendre de l'altitude. Alors, on peut se pencher aussi, Monseigneur, sur la sortie d'un film que notre joie demeure. Est-ce que vous pouvez nous en parler ?
Alors, c'est un très beau film. J'ai vu une très belle critique d'une dame qui s'appelle Cheyenne Caron, qui est une réalisatrice. C'est un film sur le père Hamel. J'ai perdu son prénom. Bon, c'est pas grave. Le père Hamel, vous vous rappelez, c'est celui qui, à Saint-Étienne-du-Rouvray, dans le diocèse de Normandie, à Rouen, a été assassiné par un islamiste, qui lui-même, après, a été tué par les forces de l'ordre. Et alors, j'étais un peu sensibilisé parce que, à Lourdes, au mois de janvier, je suis allé à Lourdes en janvier pour rencontrer les journalistes chrétiens. Je ne sais pas si on en avait parlé.
Oui, oui, tout à fait.
Et les organisateurs avaient invité Roselyne Hamel, qui est la sœur du père Hamel, ainsi que la maman du meurtrier. Donc deux femmes en deuil. L'une parce que son frère a été assassiné lâchement, et l'autre parce que son fils a commis ce crime et a été lui-même assassiné. Et cette rencontre des deux femmes a été très très émouvante. On avait tous les larmes aux yeux en écoutant ces deux femmes, et le pardon en particulier de Roselyne Hamel pour la maman du meurtrier, c'était magnifique. Et elles m'ont fait en prendre conscience, je ne sais pas si c'est bien ressenti dans le film. Vous savez que la dernière parole du père Hamel, c'est « Va-t'en, Satan ». C'est adressé comme s'il s'adressait à son meurtrier en disant « Va-t'en, Satan ». Et en fait, la lecture qu'en a faite Roselyne Hamel, c'était très beau, c'était de dire que en s'adressant comme ça à celui qui est à l'origine de tout le mal, finalement, au fond du fond, c'est de dire c'est le meurtrier, il est plus grand que son geste terrible. Au fond du fond, c'est pas lui, au fond du fond. Au fond du fond, c'est Satan, quoi. Et donc, c'est quelque part redonner une dignité à cet homme qui a perdu toute dignité en commettant un tel crime, quoi. Et j'ai trouvé que c'était très beau. Voilà, ça me fait penser toujours, vous savez, le Christ sur la croix qui dit à son père, en pensant au larron qui se moquait de lui, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font, quoi. » Trouver une excuse un peu. Et là, voilà, en s'adressant à Satan, en essayant de chasser Satan de son agresseur. Voilà, donc Malheureusement, je pourrais pas être, je crois que c'est le 20 avril.
Exactement,
une avant-première au cinéma, un de nos deux cinémas, là. Je sais plus lequel c'est, le centre.
Au cinéma, le centre.
Le centre, voilà. Je pourrais pas, je serais pas là à Gap à ce moment-là, mais j'invite nos auditeurs à y aller, mais j'espère que je pourrais le voir, ou alors en DVD plus tard. En tout cas, voilà. Une belle figure de prêtre, un prêtre tout simple, comme on en a plein dans nos vallées aussi, hein, un prêtre âgé, qui donne sa vie après ses 75 ans, qui continue à servir et à aimer. Et voilà. Et s'il a été saint, on espère qu'un jour il sera déclaré saint, c'est certes par le martyr, mais pas que ça. C'est parce que aussi par la sainteté de sa vie quotidienne, en fait, de prêtre, d'une vie toute donnée aux autres, quoi.
Alors la projection en avant-première, c'est le samedi 20 avril à 18h30 au cinéma Le Centre de Gap. Donc, et on peut découvrir aussi une interview de la réalisatrice aussi sur le site internet du diocèse. Alors Monseigneur, je ne sais pas si c'est la raison pour laquelle vous ne serez pas là le samedi 20 avril, mais vous partez pour Madrid.
Et si, c'est exactement la bonne raison. Je serai à Madrid en Espagne. De temps en temps, vous savez, comme évêque, on a des devoirs en dehors du diocèse, puisqu'on est évêque non seulement d'un territoire donné, là, les Hautes-Alpes, mais aussi on est membre du collège épiscopal. Et à ce titre, on va rendre des services ailleurs. Alors, ça peut être de présider un pèlerinage à droite ou à gauche. Et là, c'est d'aller faire les confirmations à la paroisse française de Madrid. Vous savez qu'il y a des paroisses françaises dans un certain nombre de cathédrales, de capitales. Bon, je passe en tête les noms, mais à Rome, par exemple, la paroisse française. Bon, mais il y a pas mal d'évêques français aussi à Rome. Donc, je pense qu'ils trouvent ce qu'il faut. Et là, le dernier à y avoir été à Madrid, c'est Monseigneur Gobière, le voisin. Et c'est lui qui m'a dénoncé auprès du curé de la paroisse française. Alors, je vais en profiter pour aller prendre un petit temps de repos. Donc, je vais partir dès le jeudi soir, je crois. Pour aller, parce que j'avoue que j'aime beaucoup visiter les musées, en fait, hein, dans les grandes villes.
À Madrid, vous
et là, je vais visiter le musée du Prado, qui est un des plus grands musées du monde, mais également le musée de la Reine Sofia, qui est un musée d'art moderne. Alors, je peux aimer aussi l'art moderne, mais surtout, il y a le fameux tableau du Guernica, de Picasso, au moment de la guerre civile, qui est un des sommets de l'art européen. Et donc, voilà, je vais aller profiter aussi. Mais je vais quand même le dimanche assurer ma mission épiscopale de confirmer. Voilà.
Alors, nous allons nous pencher dans le cadre de l'enseignement, parce que nous avions fini, c'est la confiance par le pape François, sur un nouveau document que vous nous conseillez bien d'étudier aussi, et vous allez nous y aider, Monseigneur, qui s'intitule « Dignitas in finita ». Alors, c'est un texte du Vatican sur la dignité humaine. Vous pouvez nous diriger un petit peu sur cette lecture ?
Voilà, en latin, donc « Dignitas in finita », donc la dignité infinie. Vous savez que les textes romains prennent toujours en latin les deux premiers mots du texte, donc la dignité infinie. C'est une déclaration rédigée par le dicaster pour la doctrine de la foi sur ce thème de la dignité humaine qui a été rendue publique le 8 avril dernier, donc c'est tout récent. Alors je ne l'ai pas encore lu en entier, mais quelques petits extraits que l'on peut partager.
Quand vous choisissez une lecture maintenant, Monseigneur, vous pensez à nous.
C'est ça. En tout cas, c'est un texte important parce qu'il revient sur un certain nombre d'atteintes à la dignité. Le pape François l'avait évoqué en janvier dernier en annonçant ce texte qui était en cours de création. Il disait « J'espère que ce texte pourra nous aider en tant qu'Église à toujours être plus proche de tous ceux qui, sans proclamation, dans la vie concrète de chaque jour, luttent et payent personnellement pour défendre les droits de ceux qui ne comptent pas. » Et donc c'est un peu la contribution de l'Église qui est aussi un soutien de tous ceux qui défendent la dignité humaine. Voyez. Et voilà, donc il y a un certain nombre de sujets que je vais essayer de voir. Là, j'ai trouvé ça. Il y a trois grandes catégories, on peut dire, d'atteintes à la dignité humaine. Les atteintes qui concernent l'économie, les atteintes qui concernent la sexualité, les atteintes qui concernent la société. Mais avant, il y a toute une partie, alors on prendra le temps peut-être de le retravailler un peu plus, donc là je fais juste une introduction plus globale. Il y a toute une partie qui présente un peu quelle est l'importance de cette dignité. Alors je vais commencer par le paragraphe 1 qui donne le titre, hein, Dignitas infinita, une infinie dignité, inaliénablement fondée dans son être même, appartient à chaque personne humaine, en toutes circonstances et dans quelque état ou situation qu'elle se trouve. Ce principe pleinement reconnaissable, même par la seule raison, fonde la primauté de la personne humaine et la protection de ses droits. Et l'Église, à la lumière de la révélation, dans ce que Dieu lui a dit à travers l'Écriture, réaffirme et confirme sans réserve cette dignité ontologique dans l'être même, ça veut dire ça, ontologique, de la personne humaine. C'est de cette vérité qu'elle tire les raisons de son engagement envers les plus faibles et les moins dotés de pouvoir. Donc il ne s'agit pas seulement de dénoncer le mal, mais il s'agit aussi, pour nous, quelque part, c'est aussi un engagement à nous engager vers tous ceux dont la dignité humaine est bafouée. Alors le paragraphe 11, par exemple, la révélation biblique enseigne que tous les êtres humains possèdent une dignité intrinsèque car ils sont créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. L'humanité a une qualité spécifique du fait qu'elle n'est pas réductible à la pure matérialité. L'image ne définit pas l'âme ou les capacités intellectuelles, mais la dignité de l'homme et de la femme. Voilà un peu des petites choses. Alors, pour clarifier davantage le concept de dignité, il est important, c'est ce paragraphe 15, de souligner que la dignité n'est pas accordée à la personne par d'autres êtres humains. C'est pas moi qui vais décider que telle personne, elle est digne de vivre. Et on voit bien que c'est le gros problème, l'origine de tous les, de toutes les dérives. Dans tous les temps, on a décidé que, par exemple, on vient de fêter de commémorer le massacre, le génocide au Rwanda. Et bien, tout d'un coup, il y a une tribu qui a décidé que l'autre tribu n'était pas digne de vivre et s'est mise à la massacrer. Voyez. Or non, chacun a la même dignité, quelle que soit sa situation, quelle que soit sa maladie. Et voilà. Donc, il y a un certain nombre de cas. Et concrètement, il y a, par exemple, s'oppose à la dignité humaine, tout ce qui s'oppose à la vie elle-même, comme toute espèce d'homicide, le génocide, je parlais de ça, l'avortement, l'euthanasie, on est en plein dedans en France, quoi, et même le suicide délibéré. Mais porte aussi atteinte à nos dignités tout ce qui constitue une violation à l'intégrité de la personne humaine, comme les mutilations, la torture physique ou morale, les contraintes psychologiques. Et donc, dedans, on peut rentrer aussi tout ce qui est les phénomènes d'emprise, voyez, les sectes, etc. Et finalement, tout ce qui est offense à la dignité de l'homme, comme les conditions de vie sous-humaines, les emprisonnements arbitraires, les déportations, l'esclavage, la prostitution, le commerce des femmes et des jeunes. Ou encore, et là on est dans le domaine social, on peut dire les conditions de travail dégradantes qui réduisent les travailleurs au rang de purs instruments de rapport, sans égard pour leur personnalité libre et responsable. Vous voyez, ça touche beaucoup de domaines. Et ensuite, le document cite la peine de mort, elle aussi viole la dignité de tout être humain, inaliénable en toutes circonstances. Vous voyez, voilà, j'avance un peu, voilà. Alors évidemment, il y a un paragraphe sur la guerre, et ça nous touche en Europe aussi maintenant, alors qu'on est touché. Aucune guerre ne vaut les larmes d'une mère ayant vu son enfant mutilé ou mort. Aucune guerre ne vaut la perte de la vie, ne serait-ce que d'une seule personne humaine. Être sacré, créé à l'image et à la ressemblance du Créateur. Voilà des exemples. Mais voyez, alors ça parle de l'avortement, ça parle également aussi d'un phénomène qui prend un peu d'ampleur du changement de sexe. Il y a des vraies questions par rapport au respect de la dignité humaine. Mais ça parle aussi, par exemple, et ça nous touche, nous, de la question de la migration. Voyez, et derrière ça, je crois que c'est toujours important pour nous chrétiens de nous dire qu'il n'y a qu'une seule humanité, qu'une seule dignité, et on a la même. Que l'on soit un petit embryon, que l'on soit un vieillard par rapport à l'euthanasie, que l'on soit un Syrien... Qui est obligé de fuir son pays et passe par nos montagnes, ou en Afghan, etc. C'est la même dignité humaine. Voilà.
Alors, Monseigneur, vous devez partir parce que vous avez une grosse après-midi au sanctuaire de Notre-Dame-du-Lot.
Oui, on a l'Assemblée générale annuelle. Et puis voilà, comme on sort d'années difficiles, il y a des décisions à prendre. Mais est-ce que je peux terminer par la petite prière sur les vocations que je voulais vous lire ?
Allez-y, je vous en prie.
Puis après, on passera le Père Éric, c'est ça ?
Voilà, exactement.
Alors, c'est une prière qui a été écrite par un Valenciennois, je suis originaire de Valenciennes, qui est mort en 1945 sur le front du sud de l'Alsace. Et voilà la prière qu'on a trouvée dans son carnet. Donc, il n'a pas pu, entre guillemets, définir sa vocation. Il était un jeune célibataire à l'époque, un jeune étudiant. Seigneur, accordez-moi la grâce de me révéler ma vocation. Ô Notre-Dame, je vous confie cette vocation. Faites-la-moi connaître, faites-la-moi aimer et faites que je la réalise pleinement. Ô mon Dieu, je crois en vous parce que sans vous, la vie n'aurait pas de sens. Je vous offre mon inquiétude. Vous avez dit, demandez, vous recevrez, frappez, l'on vous ouvrira. Je frappe et je viens vous demander la lumière, la foi, la décision. Voilà la prière de ce jeune qui s'appelle Daniel Carlier, qui est tombé en 1945, en janvier, le 1er janvier 1945, dans le sud de l'Alsace, pour défendre notre pays.
Monseigneur, merci. Et puis nous, comme vous le disiez, on va terminer par une interview du père Éric Jeurtig sur le dimanche des vocations.
Merci.
À bientôt, Monseigneur. Le dimanche des vocations, c'est le 21 avril prochain. Fin mars 2024, le pape François a publié un message pour la Journée mondiale des vocations intitulé « Appelé à semer l'espérance et construire la paix ». Nous sommes en compagnie du père Éric Jeurtig qui va nous parler de cette journée. Père, bonjour.
Oui, bonjour Christine.
Alors, que pensez-vous justement du message du pape François ?
Alors déjà, l'espérance, ça nous rappellera quand même le jubilé. Hein, donc, on vivra en 2025, témoin d'espérance, quoi, pèlerin d'espérance, même, je crois. C'est plutôt ça, la formulation. Alors, du coup, est-ce qu'il faut définir ce qu'est l'espérance ? Mais ça, on vient de sortir d'une réunion où nous sommes en train d'essayer de planifier nos journées de formation interservices autour de la thématique de l'espérance pour rejoindre le jubilé. Donc du coup, est-ce qu'on développe l'espérance, Christine?
Mais, un petit peu quand même, allons-y, voilà.
Ben voilà, disons, l'espérance chrétienne, c'est, on l'évoquait là tout à l'heure en réunion, hein, c'est-à-dire que dans un monde qui peut nous sembler désenchanté aujourd'hui peut-être, ou dans une inquiétude, ou dans une impermanence, mais qui est la réalité d'aujourd'hui, d'hier et de demain. L'espérance chrétienne nous permet d'avoir un ancrage qui nous maintient dans un espace de confiance, sachant que la confiance est toujours un espace de relation. C'est la définition même du mot confiance. Hein. Confiance, c'est fiancé la foi et cum avec. J'ai confiance si un autre m'appelle, si un autre me rejoint. Et de fait, s'il y a une forme d'invincibilité, en tout cas, du côté qu'un autre m'envisage ou me rejoint et espère ma croissance et une vie bienheureuse, en tout cas, une vie où je sais qu'un autre m'accompagne et pour un chemin de croissance, quoi. Voilà, on n'est pas dans la décroissance. Alors, l'appel s'inscrit dans cette dimension-là de l'espérance pour la vie, quoi, qui est là, discrète. Mais encore une fois, invincible dans le sens où c'est ce qui définit Dieu lui-même. Dieu est est l'appelant. Il ne cesse d'appeler. Et donc, une vocation, vocare en latin, ça veut dire appeler. Donc, une vocation, c'est toujours une réponse. Hein. Donc, c'est dit un petit peu un peu autour de la vocation, puis ça rejoint l'Annonciation. Marie a dit oui à l'ange Gabriel. On a fêté l'Annonciation lundi dernier.
Est-ce qu'on est tous appelés ?
Eh oui, tous. Eh oui. Alors, on dit journée de prière pour les vocations. Donc on pense tous aux vocations religieuses, sacerdotales, mais bien sûr, tous sont appelés. Le baptême est un appel, la réponse au baptême est un appel. Des parents, si l'enfant est très jeune, mais il y a beaucoup de catéchumènes aujourd'hui. Donc d'adultes, hein, les chiffres, sont multipliés par deux, au moins de ce que j'ai entendu au niveau provincial, et qui nous disent que de fait, Dieu ne cesse d'appeler. Dieu est et il est l'appelant. C'est ce qu'il définit le mieux, avant de dire Dieu est trinitaire, Dieu etc., Dieu est relation. Et cette relation se joue dans un appel libre où chacun peut consentir ou pas. Voilà.
Alors, la Conférence des évêques de France propose une neuvaine de prières pour toutes les vocations. Vous pouvez nous en parler ?
Alors, de fait, hein, c'est relayé par le site d'Hosanna. Donc, il y a une neuvaine de prières pour laquelle on peut s'inscrire. Hein. Il y a un lien qu'on peut trouver sur le site d'Hosanna, là, sur Internet. Et donc, une neuvaine, donc, c'est 9 jours. Donc, ce sera du 13 au 21 avril, donc le jour de la prière pour les vocations. Donc, ce qui sera la 61e journée de prière pour les vocations.
Alors, le slogan sur l'affiche...
Journée mondiale de prière.
Voilà. Le slogan sur l'affiche, c'est « Portons leur oui dans la prière ».
Alors voilà.
Qu'en pensez-vous ?
Bah disons là, tel que c'est formulé, ça veut dire parce que l'affiche, hein, pour ceux qui ne savent pas, donc c'est en fait il y a une espèce d'auréole de saints fondateurs et qui sont 13 si j'arrive à compter rapidement, et puis ensuite des visages contemporains. Donc c'est toute une campagne un peu de communication autour de la vocation. Alors c'est porter le oui de fait, hein, dans la prière. De tous ceux qui sont appelés, donc c'est qu'il y a une forme d'intercession, mais je crois surtout que nul ne va témoigner du oui pour un autre s'il n'a pas dit le sien, quoi. Voilà, je pense que c'est important, hein. C'est-à-dire que si la communauté chrétienne, si ça s'adresse plus particulièrement aux chrétiens, sont invités à prier pour les vocations, et c'est ce qu'on ne pourra jamais faire à la place d'un autre. On peut annoncer que Dieu appelle, et puis chacun dans son itinéraire, ce visage propre, hein, parce que chacun a un visage unique. Dieu connaît chacun de manière unique, et la réponse de chacun à ce oui est une réponse forcément personnelle, et c'est ce qui crée la communauté. Donc la communauté porte, s'il a formulé le sien aussi, ou s'il essaye de formuler sa réponse à Dieu, la réponse positive des autres. Parce que si on ne dit pas oui à sa vocation, alors c'est un grand sujet, hein, mais quelle est ma vocation, voilà. Donc, mais si on ne dit pas ce oui, de fait, il y a une forme d'errance, je pense, hein, dans notre vie. C'est-à-dire qu'on peut vivre avec un masque, on peut vivre avec une fausse identité, on peut... C'est des questions profondes, hein, parce que qu'est-ce qui définit chacun et qu'est-ce que l'Église dit sur la définition et la vocation de chacun. Mais en tout cas, je pense que seul Dieu peut nous révéler à nous-mêmes.